Bonsoir à toutes, merci d'être venues. Je vais parler de ce qu'il y a écrit là. C'est un peu long à lire, excusez-moi. Alors pour commencer, je voulais faire un point sur la présence du poisson dans la mythologie, dans les mythologies, en particulier les mythologies européennes et du bassin méditerranéen. Et après un examen attentif des mythologies égyptiennes, assyro-babyloniennes, phéniciennes, grecques, romaines, celtiques, germaniques, slaves et lituaniennes et ougro-finnoises, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de légende de poisson. Donc les mythologies que je viens d'énoncer couvrent à peu près l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. On trouve des dauphins dans la mythologie grecque, par exemple, qui accompagnent le cortège de Poséidon ou dans certains épisodes des légendes de Dionysos. On trouve des crocodiles et des hippopotames dans la mythologie égyptienne, par exemple le dieu Soukhos à tête de crocodile ou la déesse Touéris à tête d'hippopotame, elle a pas de chance. Mais pas de poisson, à part une allusion dans la légende d'Osiris. Lorsque Seth le découpe en 14 morceaux qu'il jette dans le Nil, on dit qu'un petit poisson, l'oxyrhynchos, aurait avalé son phallus. Le problème, c'est que l'oxyrhynchos est un poisson qui n'existe pas. Ça veut dire à bec pointu, donc ça pourrait aussi bien être un crocodile. Donc je propose de rejeter l'hypothèse qu'il s'agisse d'un poisson. Donc le problème auquel nous devons faire face, c'est que le poisson existait, était connu des hommes à une époque très ancienne. Donc on a ici une représentation de saumon dans l'abri du poisson aux Aisies. Alors ça, c'est une gravure dans une grotte qui date de la culture gravettienne, donc du proto-magdalénien, autant dire que ça, 25 000 ans. Donc c'est la plus ancienne représentation de poisson connue au monde. Et par ailleurs, à l'époque archaïque, à l'époque historique, les poissons étaient connus et faisaient partie de l'alimentation de base. Ici, une mosaïque à Pompéi dans la maison du trône. Donc on a cette apparition des poissons il y a 25 000 ans, cette réapparition des poissons il y a 3000 ans, et entre les deux, rien du tout. Donc on peut se demander où sont passés les poissons pendant ce temps. Est-ce qu'ils se sont cachés? Est-ce qu'ils ont disparu puis réapparu? C'est un mystère de l'évolution, donc c'est ce que nous allons étudier. Donc je vais m'intéresser à un événement très important qui est le déluge. Alors, le déluge est mentionné dans les mythes chrétiens et grecs. Ce qu'on peut expliquer par un fond commun babylonien qui est transmis aux chrétiens par proximité géographique des aires culturelles et aux grecs par contact avec les marchands phéniciens. Et pourtant, il y a aussi une mention du déluge dans les mythes lituaniens, et ici on ne peut guère évoquer l'hypothèse d'une transmission par proximité géographique. Donc en conclusion, devant la diversité des sources, on ne peut que dire que cet événement a bien eu lieu. Or, je ne sais pas si tout le monde a bien en tête le mythe lituanien du déluge. Je vais peut-être résumer. C'est l'histoire de Pram X, qui est la plus ancienne divinité et qui est le dieu du destin, qui voit depuis le ciel la terre pleine de guerres, de crimes, de choses atroces. Donc il envoie l'eau et le vent, ce qui déclenche le déluge pendant 12 jours et 12 nuits. Au bout de ce laps de temps, Pram X regarde de nouveau la terre, tout en mangeant des noix qui poussent dans le jardin de son château céleste. Et en voyant que presque tout le monde est mort, il jette une coquille de noix qui se met à flotter près d'une montagne où s'étaient réfugiés les derniers oiseaux, animaux et quelques couples d'hommes. Et ceux-ci se montent dans la coquille de noix et flottent jusqu'à ce que Pranvis regarde une troisième fois et pitié d'eux et fasse partir l'eau et le vent. Parallèlement, je vais citer les versets 19 et 20 du livre 6 de la Genèse. Donc, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est ce que dit Dieu à Noé. On se rend compte d'une chose dans les deux relations de ce mythe. Dieu a oublié les poissons. Or, on sait que tous les êtres vivants qui ne sont pas montés dans l'arche se sont noyés. Donc les poissons se sont noyés au moment du déluge. Comment se fait-il donc que nous connaissons des poissons aujourd'hui? À quel moment ont-ils réapparu? Je passe maintenant à une autre légende bien connue des scientifiques, qui est le mythe de l'Atlantide. Donc, en -357, Platon rapporte dans le Timée le mythe de l'Atlantide. Donc, si certains historiens s'autorisent aujourd'hui du caractère hautement symbolique du récit de Platon, qui introduit une visée morale pour choisir la solution de facilité et décréter que l'Atlantide n'est qu'une fable et n'a jamais existé, est aujourd'hui largement répandue dans la communauté scientifique, l'opinion selon laquelle les Atlantes ont bien existé, ont vu leur civilisation s'effondrer et ont émigré au Tibet où ils ont fondé Lhasa, puis de là pour certains d'entre eux en Antarctique où ils ont établi des bases scientifiques grâce auxquelles ils ont pu entrer en communication avec les extraterrestres et enlever Elvis. Nous allons démontrer qu'il n'en est rien. Alors, certains archéologues spécialisés dans les civilisations celtiques se sont penchés sur le problème des mégalithes trouvés sur toute la côte atlantique de la Bretagne, entendue au sens large, jusqu'au sud de l'Espagne. Donc, nous savons aujourd'hui que l'image d'Obélix est erronée, que les menhirs et autres dolmens ne sont pas l'œuvre des Celtes, mais d'une civilisation bien plus ancienne. Donc, on a pu établir certains rapprochements. Déjà, la proximité sémantique entre le nom de l'Atlantide et celui de l'océan Atlantique laisse supposer une certaine proximité géographique. D'ailleurs, Platon situe l'île au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Par ailleurs, il est question d'inondations extraordinaires, d'Atlantide engloutie dans la mer. Or, il est avéré qu'entre il y a 20 000 ans et il y a 6 000 à 3 000 ans, le niveau moyen de la mer a remonté de 120 cm, ce qui suffit surtout sur les côtes atlantiques qui sont en pente douce, à engloutir plusieurs kilomètres de territoire. Résumons. À l'origine des temps, les poissons existaient, survient le déluge, plus de poissons. Puis les Atlantes sont englouties dans la mer, j'insiste sur ce point, et en peu de temps, affluent des documents iconographiques ou écrits qui recommencent à parler de poissons. Donc, l'un des plus anciens documents de la période historique est un bas-relief du tombeau du grand roi Ti en Égypte à Saqqara, où on voit les serviteurs attraper pas mal de poissons, ça date d'environ 5000 ans, désolé, j'ai pas d'image. Je vous mets ici une image de la tombe de Kabekmet à Deir el-Medina. Kabekmet, c'est un artisan qui a vécu sous le règne de Ramsès II, soit au milieu des années moins 1200. Donc on voit ici Anubis en train de faire la cuisine, visiblement. Donc il semblerait que la disparition des Atlantes soit concomitante à la réapparition des poissons. Donc, contrairement à ce que dit Platon, l'engloutissement ne s'est pas fait en un jour, ça a duré plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Peut-on supposer que les Atlantes aient été trop bêtes pour partir, ou que pour quelques bonnes raisons, ils se soient habitués à rester là et à aller de plus en plus souvent dans l'eau, et que ce soit produit une évolution inversée, entre guillemets? On a certains documents iconographiques qui tendraient à le prouver. Donc, on voit ici des Atlantes batifolant dans l'eau avec les poissons. Ils ont l'air de s'habituer au milieu. Ils gardent encore la tête hors de l'eau. Ici, on a une Atlante en train de nager avec les poissons. Donc, ici, elle est représentée dans l'eau. Enfin, le mode de représentation est stylé. Mais, on voit les vagues qui vont jusque par-dessus sa tête. Donc, on peut supposer qu'elle est totalement dans l'eau. Et à partir de là, on a des évolutions biologiques. Donc, avec ce bonhomme dont les deux jambes commencent à se pourvoir de nageoires, qui a donné naissance au mythe des tritons, des sirènes et de tout ce qui s'ensuit. Alors ça, c'est dans les thermes d'Herculanum. Ça, c'est un bas-relief du temple d'Apollon à Zidim, donc ça date de entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, en Turquie. Et voici le nymphée de la villa de Julia à Rome. Donc là, on a un homme qui est presque totalement en poisson, puisque non seulement il a développé la queue de poisson, mais il a même des nageoires par-devant. Donc la théorie synthétique de l'évolution pose comme principe que certains groupements de population évoluent en fonction de caractères ayant acquis une valeur adaptative. Ça, c'est copié-collé de Wikipédia. J'ai pas tout compris. Il se peut tout à fait que certains individus, au lieu d'évoluer, choisissent d'immigrer, ceux qui sont partis en Antarctique, tandis que ceux qui transmettaient les gènes évolutifs à leurs descendants restaient sur place. Et il est tout de même significatif que les légendes d'êtres hybrides aient à ce moment-là cours dans le monde gréco-romain, Néréide et Triton, et dans le monde celte avec les sirènes, soit deux populations en contact avec le milieu atlantique, même si d'un peu loin, ou encore sous d'autres formes, par exemple en Afrique, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, sous la forme de Maniwata, qui est une divinité des eaux, qui est une forme de sirène également. Et donc, pour finir, on suppose que les derniers descendants de cette évolution parallèle sont les membres de la famille Pompée, qui s'éteint au 1er siècle avant notre ère avec la défaite de Pompée face à César à Pharsale, ça c'était pour coller au titre. Et la preuve en est l'émission par cette famille de monnaies représentant les monstres marins, Donc la coutume en fait dans la République, c'est que les familles romaines dont un membre tenait la charge de magistrat monétaire faisaient frapper des monnaies avec un symbole fort de leur nom, qui en quelque sorte les armes de la famille. Par exemple, les monili qui prétendaient descendre d'Ulysse mettaient une image d'Ulysse sur les monnaies qu'ils ont fait frapper. Et donc Sextus Pompée, lorsqu'il est nommé commandant de la flotte en moins 42 et gouverneur de Sicile par le Sénat romain qui s'opposait à cette époque à Savonius, fait donc frapper un denier à l'image de Sylla. Sylla comme dans le Charybde de Sylla. Donc on voit ici sur l'image de droite. Ici donc on pourrait aussi émettre l'hypothèse, étant donné que Sextus Pompée, après le désaveu par le Sénat qui se range aux côtés d'Octave, se fait pirate, que cette monnaie pourrait représenter le fameux monstre en spaghetti volant, ou en couscous volant, ou en quoi que ce soit d'autre. Et c'est là la dernière preuve d'une affiliation, ou disons d'un lien familial entre les humains et les poissons. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Oui.
Il me semble qu'il est avéré que les attentes technologiquement sont avancées. Est-ce qu'il a été envisagé que leur transformation progressive en poisson n'ait pas été le fruit de l'évolution, mais était provoquée délibérément?
Une évolution poussée. Alors, je n'ai pas envisagé cette hypothèse parce que, en fait, Platon ne parle pas du tout de technologie ou de quoi que ce soit. Il parle chez... C'est tout à fait possible, en fait, on n'en sait rien. Je ne sais pas exactement d'où sort cette légende. Dans le texte, Platon dit seulement qu'ils étaient très forts militairement, mais... Voilà. Ah. S'ils mangeaient des gens intelligents en poisson. Peut-être.
J'ai plus un lien avec le crochet de poisson.
Le?
Le crochet de poisson.
Le crochet de poisson?
Oui, c'est quoi? C'est ton petit livre, c'est ton petit livre.
C'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Oui.
Comment sur les attentes, est-ce que cette maladie des deux heures, qu'elle peut mettre un niveau empoisonnement par des poissons de GM?
Oui, je ne sais pas, c'est tout à fait possible, mais comme on n'a pas de reste d'Atlante, c'est assez difficile à analyser. Il dit pas qu'il l'a eu auprès de l'oracle de Delphes, il dit qu'il... Enfin, c'est Socrate qui dit qu'il l'a eu d'un vieux pote à lui, qu'il savait, de Solon, qu'il le savait, de...
Ça correspond
bien au diagramme. Qu'il le savait d'un prêtre égyptien.
Et donc, enfin, ils ont...
Avec IS à la fin.
Peut-être, justement, la seule partie
que
vous aurez
pu accepter, c'est celle des petits points de la sorte. Il y a encore une question au fond?
Oui.
J'entends pas, merci. Oui.
Et la ville de l'histoire, 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 et la ville
Donc, en fait, du coup, ça a essayé de rentrer dans les structures A, donc pour le grand fond. Malgré les liquides humains, à ce jour, la mythologie de la vie survit.
Alors, le truc avec le Styrincos, c'est que c'est un poisson maudit, c'est pour ça qu'on ne peut pas le manger. Mais je crois pas qu'ils les considèrent comme leurs ancêtres. Alors le problème avec ce poisson, c'est que, enfin je dis que ça n'existe pas, c'est qu'en fait on ne sait pas à quel poisson ça correspond. Et un peu n'importe qui arrive, trouve un poisson dans le Nil qui a le museau vaguement pointé et dit « J'ai trouvé le Styrincos !» Mais en fait on ne sait pas à quoi ça correspond. Oh bah s'ils ont envie de faire du tourisme, c'est leur droit, hein. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est probablement Pausanias en fait qui rapporte ce genre de choses. Enfin oui, c'est de toute façon la plupart des mythes égyptiens on les connaît par les Grecs. Plus de questions ?